Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Culture Monde, émission préparée par Mélanie Chalandon, que vous retrouverez chaque vendredi au micro. Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Fanny Richet, à qui je souhaite la bienvenue dans notre équipe. Culture Monde est réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ruben Carmazine. Tout l'été, Donald Trump a fait le marchand de paix, Pax Americana. La paix selon Donald Trump, c'est notre première série de la saison. Nos émissions sur l'Ukraine et sur Gaza n'ont pas eu lieu pour cause de grève, mais nous parlerons demain de l'accord que Donald Trump a fait signer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord avec concession. Aujourd'hui, la route que le président états-unien trace dans le Sud-Caucase. Donald Trump, suivi du premier ministre arménien Nikol Pachinian et du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à mettre fin définitivement à tous les combats, à rouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun.
Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette avancée n'aurait tout simplement pas été possible sans l'engagement personnel du président Trump et sans son engagement résolu pour la paix dans notre région.
Donc peut-être sommes-nous d'accord avec le Premier ministre Pachinian pour lancer un appel joint au comité Nobel pour récompenser le président Trump avec un prix Nobel de la paix.
En quoi consiste la flatterie à se rapetisser pour entrer dans la cervelle de la personne autour de laquelle on gravite, à devancer ce qu'elle attend de nous pour obtenir au minimum un peu d'intérêt et de mansuétude. Or, tout le monde sait, il ne s'en cache pas, que Donald Trump aspire au prix Nobel de la paix, prix d'une passion pacificatrice aussi subite qu'irrépressible. Il se vantait il y a 10 jours d'avoir mis fin à 6 guerres en 6 mois, dont celle qui a opposé de nouveau l'Azerbaïdjan à l'Arménie dans le Haut-Karabakh. Donald Trump pense avoir réconcilié les deux pays, leur faisant paraffer début août à Washington une sorte de pré-accord de paix où chacun s'engage à en appliquer les clauses pour qu'il devienne un véritable accord. Une poignée de main, une tape dans le dos et tout le monde reprend l'avion pour le Caucase du Sud. Vous allez avoir une très bonne relation, les interpelle le président américain. Si c'est pas le cas, appelez-moi et j'arrangerai ça. Comment et pourquoi les États-Unis se sont-ils immiscés dans ce conflit du Sud Caucase? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Julien Zarifian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en civilisation nord-américaine à l'Université de Poitiers. Bonjour Anita Ratchatourova. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse doctorante au Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des relations arméno-azerbaïdjanaises. Alors je précise juste aux auditeurs que nos collègues du CDM, c'est le centre de modulation, sont en grève aujourd'hui, d'où le fait que nous devions parler avec vous, Julien Zarifian et Anita Ratchatourova par téléphone. Alors il faut d'abord poser quelques jalons pour comprendre de quoi on parle quand on évoque la diplomatie états-unienne. Aujourd'hui, on a intitulé cette série « La paix selon Donald Trump ». Mais Julien Zarifian, la diplomatie états-unienne n'est pas censée se résumer au nom du président. Est-ce qu'on sait, en cherchant un petit peu, quel réseau ou quels hommes ont agi auprès de Nikol Pachinian et d'Ilham Aliyev pour aboutir à ce texte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?
Oui, alors bon, déjà ce texte, on en reparlera, mais ce texte en soi ne symbolise pas une avancée absolument majeure, hein, puisque c'est une déclaration et dont les éléments principaux étaient déjà en fait établis auparavant. Donc ça, c'est la première chose. Pour le dire autrement, on a quand même un peu l'impression que qu'il y a une forme d'opportunisme, de pragmatisme, hein, du côté de l'administration Trump, et on tire un petit peu les marrons du feu, si j'ose dire. Voilà, à un moment opportun. Et ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, oui, on a quand même le sentiment que cette manœuvre et cette démarche émane vraiment de la Maison Blanche. Donc voilà, de l'entourage de Trump, avec sans doute Steve Witkoff, dont on sait qu'il était à Bakou en mars dernier. Il a rencontré Ilham Aliyev. Donc voilà, quant au rôle des acteurs traditionnels, qui, si j'ose dire, de ce genre d'avancée diplomatique, c'est-à-dire le département d'État essentiellement, c'est plus difficile à établir. Moi, j'ai pas d'infos précises. On sent le département d'État quand même plutôt en retrait, et on sent que c'est plutôt une initiative vraiment Maison Blanche, mais ce sera confirmé par des recherches plus précises.
Le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a remercié Donald Trump pour avoir interagi dans le dossier, on sent en effet qu'il a été non pas mis à l'écart, mais en tout cas qu'il ne s'est pas investi directement dans ce dossier. Serge Witkoff, qui est envoyé spécial dans le Sud-Caucase, mais comme il y est de toute façon dans toutes les régions du monde, qui a intercédé quant à lui sur ce dossier. Et puis par ailleurs, on sait que les conseillers états-uniens occupent des postes tournants, qui ne se spécialisent pas dans une aire géographique, sauf les spécialistes de l'Iran, qui se consacrent entièrement au pays. Or, les intérêts de l'Iran dans la région, les intérêts de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont souvent été liés à l'Iran. Donc peut-être qu'il y a des conseillers spécifiquement sur le Sud-Caucase, mais c'est difficile à savoir.
Trump deserved to have a Nobel Peace Prize.
Je pense que le président Trump mérite un prix Nobel de la paix. Nous allons défendre cela, nous allons promouvoir cela.
Qui, si ce n'est le président Trump, mérite le prix Nobel de la paix? Je ne veux pas revenir sur quelques décisions vraiment étranges prises dans l'histoire par le comité du prix Nobel qui a récompensé quelqu'un qui n'avait rien fait du tout. Mais le président Trump, en 6 mois, a réalisé des miracles. Donc je pense que mon collègue arménien soutiendra cela, et à en juger par la réaction du public, je pense que dès que nous rentrerons, nous nous mettrons d'accord pour envoyer une lettre commune. Et espérons-le, je viendrai aussi quand le président sera récompensé. J'espère qu'il nous invitera à la cérémonie.
Bien sûr que vous serez invité. Merci beaucoup.
Avons-nous quelque chose pour signer maintenant ?
Nicole Pachignan, puis Ilham Aliyev, puis Donald Trump à Washington le 8 août dernier. Alors c'est vrai que c'est allé un petit peu vite en besogne que de se féliciter de cet accord et de promettre à Donald Trump un prix Nobel, puisque ce texte paraphé le 8 août n'est pas un accord de paix au sens strict, mais un document préalable. Anita Ratchatourova, que prévoit-il ce texte qui ne se contente pas d'entériner une situation existante, donc la victoire militaire de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, mais qui vise à prévenir, à empêcher qu'une autre guerre n'éclate un jour?
Oui, alors le texte qui a été paraphé, comme vous avez justement dit, le 8 août à Washington, c'est un texte très court en 7 points, dont en vérité la plupart des points, il me semble 4 points, sont vraiment des déclarations très générales et qui n'ont pas vraiment trait aux questions principales. Il y a quand même quelques mentions importantes dans ce texte qui méritent d'être soulignées, qui est la création donc de ce TRIP, hein, la route de Trump pour la paix et la prospérité internationale, et qui est donc qui serait un corridor qui traverserait le sud de l'Arménie pour connecter l'Azerbaïdjan avec son esclave, le Nakhitchevan, donc de l'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan, et où on a véritablement une formulation assez contradictoire dans les termes, parce que d'une part, la souveraineté arménienne est réaffirmée, et dans le même temps, il est précisé que cette route et le passage des convois azerbaïdjanais devraient être faits sans entrave. Et donc, cela suppose un leasing donc d'une partie de ce territoire, de cette route,
aux
Américains. Donc, il y a
qu'est-ce que c'est, pardon, un leasing?
Donc, en fait, oui, un leasing, c'est proposer pour un certain nombre d'années, donc prêter quelque part une partie du territoire à un État étranger. Donc,
Vous entrez tout de suite dans les détails, Anita Ratchatourova, et on va prendre le temps de le faire. C'est vrai que ce projet qu'on appelle TRIP, c'est vraiment très vilain comme sigle, la route internationale Trump pour la paix et la prospérité. On dit bien route dans le texte et non pas corridor d'ailleurs, ce qui a une importance puisque le terme de corridor sous-entendrait que l'Arménie n'est pas souveraine sur ce bout de route qui la traversera et qui doit permettre à l'Azerbaïdjan, qui est à l'est de l'Arménie, d'accéder à son esclave du Nakhitchevan à l'ouest de l'Arménie. À quoi doit ressembler cette route de transit et pourquoi ce terme de connectivité sans entrave entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan pose, selon vous, problème, Anita Ratchatourova?
La formulation dans le texte suppose que d'une part il y ait la réaffirmation de la souveraineté de l'Arménie, d'autre part la question du sans entrave. Donc en fait, on a plus de questions que de réponses dans ce texte.
On ne sait pas si ça veut dire sans droit à payer, sans contrôle de marchandises. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire ce sans entrave.
On ne sait pas exactement quel rôle l'Arménie joue dans ce passage, donc la mise en place du contrôle sur cette route. On ne sait pas encore le rôle que vont jouer les États-Unis dans le contrôle de ces territoires. Donc on ne sait pas comment va se faire la mise en pratique de cette route. Et en ce sens-là, l'Azerbaïdjan arrive quand même à sortir quelque part victorieux encore, et le président azerbaïdjanais l'a d'ailleurs réaffirmé en rentrant à Bakou, et a dit qu'il s'est assuré d'une autre victoire sur l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan arrive à s'assurer que il y ait donc le corridor soit mentionné, et bien que l'Arménie insiste sur le fait que la souveraineté ne soit pas mise en cause, donc en fait il y a dans ce document des choses qui permettent à la fois à l'Arménie comme à l'Azerbaïdjan de dire qu'ils ont, en revenant dans leur pays, de dire qu'ils ont, ils se sont assurés de gains qui leur sont favorables, mais dans les faits, on a donc un engagement des États-Unis d'assurer un passage sans entrave pour les Azerbaïdjanais sur cette partie très stratégique du terrain. Et d'autre part, l'Azerbaïdjan a réussi également à s'assurer de la dissolution du groupe de Minsk, donc du groupe de l'OSCE qui, pendant à peu près 30 ans, était un groupe multilatéral pour faire une médiation du conflit arméno-azerbaïdjanais, et qui était le seul cadre multilatéral existant dans ce contexte-là, et que l'Azerbaïdjan voulait fortement abolir, et qu'il a réussi également à faire.
Alors, on va entendre Julien Zarifian, pardon, excusez-moi Madame Rachida Tourova, on va entendre Julien Zarifian à ce sujet. C'est vrai que l'Azerbaïdjan avait cette exigence-là, Julien Zarifian, de dissoudre le groupe de Minsk de l'OSCE sur le Haut-Karabakh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une cette dissolution soit actée avant même que le traité de paix, disons définitif, c'est malheureusement un oxymore, un traité de paix définitif, mais que ce traité de paix soit signé?
Bon, c'est compliqué, parce qu'effectivement, ce groupe de Minsk jouait un rôle important, a joué un rôle essentiel dans les années 90 et 2000, et est quand même parvenu à faire se réunir les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Et on a été sans doute à deux ou trois reprises quand même proche d'un accord de paix. Mais de fait, le groupe de Minsk, depuis 2020 et 2023, l'affaire du Haut-Karabakh a été réglée par la force, en fait. Hein. Donc le groupe de Minsk, dont le rôle est de médiation diplomatique, n'a plus vraiment vocation à exister. Alors pour certains parmi la partie arménienne, c'est très problématique. Mais côté Azerbaïdjan, on s'en réjouit, puisque de toute façon, les vues azéries, azerbaïdjanaises ont été imposées par la force, et d'une certaine manière, le conflit entre le Haut-Karabakh le conflit du Haut-Karabakh sur l'enclave du Haut-Karabakh est achevé par la guerre, par la force. Donc en fait, tout ça n'a plus grand sens. De toute façon, le groupe de Minsk était mort de fait depuis 2023 et même un peu avant. Son activité était très réduite depuis 2020, et j'ajoute que dans le groupe de Minsk, on a quand même comme coprésident la France, mais surtout les États-Unis et la Russie, dont les relations sont extrêmement difficiles depuis quelque temps. Donc bref, donc le groupe de Minsk, je dirais pas que c'est un épiphénomène, parce que pour plein de raisons, à la fois de droit international et puis aussi symbolique, ça comptait beaucoup pour la partie arménienne. Mais bon, là, l'état de fait militaire sur le terrain est ce qu'il est. Donc c'est bon.
Bon, en tout cas, Bakou...
si essentiel d'une certaine manière, ça l'est d'un certain point de vue, comme je viens de le dire, mais les choses sont ce qu'elles sont.
En tout cas, l'Azerbaïdjan accepte de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Arménie sur le papier, et donc de reconnaître les accords d'Alma-Ata de 91 qui avaient scellé l'effondrement de l'URSS et acté officiellement l'existence de la République d'Arménie, même s'il n'était écrit nulle part que l'Azerbaïdjan doive quitter les territoires arméniens qu'il occupe, et il y en a encore, hein, et on parle plus du Haut-Karabakh, il y a encore quelques territoires en Arménie où une présence de l'Azerbaïdjan pose problème sur le terrain. Qu'est-ce qui est prévu spécifiquement pour le Haut-Karabakh, Julien Zarifian? Est-il désormais acté que l'Azerbaïdjan y est souverain, conformément d'ailleurs à ce qu'en dit le droit international?
Je ne sais pas ce qu'Anita en dira, mais il me semble que oui. Il me semble que l'affaire est réglée, a été réglée par les armes et que dans... accepté par le leadership arménien à Erevan, donc pas par toutes les composantes, je dirais, de la partie arménienne, si j'ose dire. C'est-à-dire il y a une opposition évidemment en Arménie, en diaspora, à cet état de fait, mais côté Erevan, côté leadership Pachinian, les choses sont très claires. Donc là, pour le Haut-Karabakh, pour le moment, pour le Haut-Karabakh arménien, l'affaire, pour le moment, en tout cas, l'affaire est totalement réglée, si j'ose dire. Les réfugiés sont pour une grande partie en Arménie et
plus de 100 000.
Il n'y a pas de possibilité de retour. Et l'Azerbaïdjan opère une politique de peuplement, alors encore à relativement petite échelle, mais enfin de peuplement du Haut-Karabakh par des Azerbaïdjanais et Azerbaïdjanaises, et de destruction également du patrimoine arménien du Haut-Karabakh.
Ces questions-là ne sont pas réglées, ni celles des prisonniers de guerre, d'ailleurs, qui sont plusieurs dizaines à être encore détenus dans les prisons azerbaïdjanaises. En tout cas, pour le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, le plus important a été conquis.
Cet accord de paix scelle la fin de décennies de conflits entre nos pays et inaugure une nouvelle ère basée sur le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun. Je veux remercier le président Trump et son équipe pour avoir négocié ce résultat qui change la donne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un excellent accord auquel nous sommes parvenus aujourd'hui. C'est un succès pour nos pays et pour notre région.
Succès pour notre pays, dit Nikol Pachinian, le premier ministre de l'Arménie. Encore faut-il pour que ce texte, on le disait tout à l'heure, soit vraiment entériné et devienne un véritable accord de paix, et bien que toutes les parties respectent les termes de l'accord, y compris, et ça c'est une demande de l'Azerbaïdjan à l'Arménie, Anita Ratchatorova, y compris que l'Arménie inscrive dans sa constitution le renoncement à sa souveraineté sur ce que l'Arménie appelle l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh. C'est la seule concession qui n'a pas encore été faite par l'Arménie, mais Nikol Pachinian a ouvert la porte à une réforme constitutionnelle en 2027. Qui en décidera et jusqu'où cet accord de paix tient aussi sur cette promesse-là?
Oui, alors tout à fait. Et avant de répondre, je voudrais vraiment préciser que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment les conséquences de la défaite arménienne en 2020. Donc l'Arménie aujourd'hui négocie avec littéralement le couteau à la gorge, puisque l'intérêt de l'Arménie à ce stade-ci, c'est éviter et prévenir toute attaque directe sur son territoire, puisque comme vous l'avez dit, l'Azerbaïdjan occupe des parties de son territoire, des parties stratégiques, et est en position favorable pour lancer des attaques qui pourraient compromettre directement la souveraineté de l'Arménie et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc ça, c'est l'enjeu principal du gouvernement arménien aujourd'hui, c'est de prévenir une attaque, des attaques, des menaces sur son territoire. Et comme vous l'avez dit, l'Azerbaïdjan, non, donc malgré toutes les concessions que l'Arménie continue de faire, l'Azerbaïdjan demande comme préalable la signature d'un accord de paix, donc qui officialiserait ces textes dont nous parlons aujourd'hui, demande à l'Arménie de changer sa constitution et en fait de changer le préambule de sa constitution. Un préambule en fait qui fait référence à la déclaration d'indépendance de l'Arménie qui date d'août 90. et où, dans cette déclaration, il est fait mention du Haut-Karabakh. Donc, le Haut-Karabakh en tant que tel n'est pas mentionné dans le texte de la Convention, mais c'est via une référence à la déclaration d'indépendance. Et l'Azerbaïdjan demande que cette mention-là soit enlevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que en posant cette précondition, l'Azerbaïdjan est tout à fait conscient qu'il repousse la perspective d'une signature à des temps plus éloignés. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire à court et moyen terme. En tout cas, pas avant au moins un an. Et que, par ailleurs, il n'est pas du tout assuré que ce changement de constitution puisse se faire, puisque pour que cela se fasse, il faut un vote au référendum en Arménie, dans lequel un tiers de la population d'électeurs inscrits doit se prononcer et voter favorablement à ce changement de la Constitution. Donc, ça voudrait dire qu'environ 700 000 personnes devraient voter oui au changement de texte de la Constitution. Et ça, ce n'est pas du tout assuré comme résultat. Donc, quelque part, ce que ça signifie aussi, c'est vraiment une volonté de repousser finalement tout engagement pour la paix formelle de la part de l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan aujourd'hui ne tire pas directement profit d'une paix avec l'Arménie. Et d'ailleurs, un des nombreux indices de cet état de fait, c'est la répression en interne en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, vous avez des personnes en Azerbaïdjan qui sont arrêtées, détenues en prison parce que ils ont, donc dans leur acte d'accusation, leur tort, c'est d'avoir initié un dialogue avec les Arméniens, et dont notamment notre collègue Bahrous Samadev, qui est un jeune chercheur et qui est depuis un an en prison en Azerbaïdjan parce que c'est un militant pour la paix, c'est une personne qui a simplement collaboré avec des Arméniens. Donc vous voyez cette contradiction dans les termes entre ce qui se fait à l'international et puis les actions concrètes prises en interne en Azerbaïdjan, à une rhétorique en Azerbaïdjan même qui finalement reste tout aussi belliqueuse et tout aussi conservatrice, on va dire, sur le rapport aux Arméniens et à l'Arménie.
Alors, vous parliez du rôle que doivent prendre à un moment et à qui on doit donner ce rôle-là, des Arméniens qui devront voter peut-être lors d'un référendum pour modifier la Constitution et voir si l'Arménie doit ou pas inscrire dans cette Constitution le renoncement à sa souveraineté sur la Tsakh. C'est une Constitution qui a été votée en 1995. Après la première guerre du Haut-Karabakh et la victoire arménienne, ce qui me permet de faire un tout petit rappel historique, puisque le Haut-Karabakh était rattaché à l'Azerbaïdjan à l'effondrement de l'URSS. L'Arménie en a pris le contrôle à l'issue de la première guerre du Haut-Karabakh entre 88 et 94, et des Arméniens ont été déplacés, beaucoup d'Azerbaïdjanais aussi. C'est une histoire complexe et on peut se dire qu'on peut attendre d'un traité de paix qu'il contribue aussi à rapprocher entre elles les populations, sauf qu'on ne sait pas si les Arméniens, par exemple, auront droit d'emprunter cette route qu'est en train de tracer Donald Trump, en tout cas, que ce soit à Erevan ou à Bakou. On est un peu circonspect sur ce pré-accord de paix du 8 août.
Mes attentes ne sont pas positives, car aucun des documents signés entre mon pays, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan depuis la guerre de 2020 n'a joué en notre faveur. C'est pourquoi je n'ai pas d'attentes positives.
Nous attendions depuis longtemps la signature de cet accord. Nous ne faisons pas confiance à notre voisin, l'Arménie. C'est pourquoi il fallait un État fort pour agir en tant que garant. La Russie n'a pas pu le faire, mais les États-Unis ont réussi.
Julien Zarefian, on vous rappelait tout à l'heure qu'en Arménie, tout le monde ne voyait pas d'un bon œil cet accord, mais tout le monde ne le voit pas non plus comme une reddition du Premier ministre. On a l'impression d'un décalage de point de vue entre les Arméniens de la diaspora et d'une partie, il est vrai, de l'opposition sur place, et ce qui semble être la grande majorité des Arméniens vivant dans le pays, qui n'ont pas amplement manifesté. Par exemple, il n'y a pas eu de grand appel à la mobilisation après le 8 août. Pourquoi, d'après vous ?
Bon, là, il s'agit de questions complexes et liées à la situation politique et sociale en Arménie. Hein, dont, bon, je suis pas spécialiste et j'en traite toujours avec beaucoup de prudence quand on m'interroge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une polarisation qui est extrêmement forte en Arménie et en diaspora et en fait dans cette ce qu'on appelle parfois la transnation arménienne, hein, donc incluant l'Arménie et la diaspora. Il y a des désaccords et il y a une. J'aurais du mal à dire qui est majoritaire ou j'ai pas d'éléments. Peut-être en existe-t-il. Hein, il y a peut-être eu des sondages assez valables pour. Mais j'entends plusieurs positions effectivement plutôt proches de celles du Premier ministre Pachinian ou plutôt proches de ceux qui s'opposent en fait à cet accord avec l'Azerbaïdjan. Donc voilà, ce dont on peut dire de manière sûre, c'est qu'il y a une grande polarisation. Je pense que pourquoi il n'y a pas eu une opposition forte à Yerevan spécifiquement sur ces accords, c'est que peut-être on est dans un cycle où justement c'est un tout petit peu moins le cas en ce moment en Arménie, un cycle un peu plus calme. Je pense qu'il y a des attentes très fortes hein, sur le plan économique en fait. Hein, il faut jamais quand même perdre ça de vue. Et même s'agissant des accords, et si on repart un petit peu sur Washington, il y a quand même des dimensions économiques et géoéconomiques hein, qui sont très fortes et qui participent à mon avis des motivations trumpiennes, on va dire. Mais en tout cas, en Arménie, il y a aussi des attentes très fortes de ce côté-là et c'est vers ces efforts-là que beaucoup d'Arméniens aussi se tournent. Je pense que dans le fond, il y a aussi un peu de résignation. Hein. Bon, comme ça a été rappelé, la guerre de 2020 en particulier a été absolument dramatique et traumatisante. Et pour beaucoup d'Arméniens en Arménie et même en diaspora, il faut à tout prix éviter que ce genre de situation puisse se reproduire. Et vu que l'Azerbaïdjan, les autorités azerbaïdjanaises demeurent quand même hostiles, hein, belliqueuses, comme ça a été dit par Anita Ratchaturova. Donc il y a quand même cette crainte. Et puis et donc certains, en Arménie et en diaspora, certains pensent que la meilleure solution pour éviter en fait un conflit qui reprendrait un jour, c'est quand même d'avancer vers une forme de paix. Même avec tous les risques que ça implique, et même si c'est critiqué, comme on l'a dit, par beaucoup d'Arméniens également.
Avec cette information qui est contenue dans le texte et qui est presque surprenante, puisqu'on parle d'un accord de paix, c'est cet embargo sur les ventes d'armes américaines en Azerbaïdjan qui va être levé. Mais à quoi bon des armes puisqu'on signe la paix? Donc se demander pourquoi cette clause figure dans l'accord. Quels sont les avantages qu'en tirent cette fois les États-Unis, puisqu'il s'agit aussi de se demander pourquoi, à part convoiter le prix Nobel de la paix, pourquoi Donald Trump s'étant investi dans ce dossier-là? Quels sont les intérêts états-uniens, strictement, Julien Zarifian, dans ces discussions-là?
Mais je pense que côté Maison Blanche, il y a quand même un enjeu très personnel d'ego autour du prix Nobel de la paix, d'une certaine image qu'il veut renvoyer en ce moment, hein, mais c'était pas le cas. Je parle de Trump, hein, évidemment, qu'il veut renvoyer en ce moment, mais c'était pas le cas il y a quelques mois. Je me permets juste une petite parenthèse qui est pas inintéressante en lien avec la question du prix Nobel de la paix. Une séquence quand même relativement récente, rappelons-nous, était celle des menaces de Trump sur la souveraineté du Canada et du Groenland et donc du Danemark. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était au début de l'année, il y a quelques mois, au début de son mandat. Bref, je referme la parenthèse. Mmh. Mais donc en ce moment, effectivement, Trump est dans cette humeur, presque pour faire un anglicisme, cette humeur de faiseur de paix. Donc ça compte quand même de manière assez centrale, hein, d'autant qu'on sent que c'est quand même une initiative Maison Blanche, comme je l'ai déjà dit en préalable. Il n'en est pas moins qu'il y a évidemment des intérêts géopolitiques, que tout ça s'intègre dans une stratégie de pénétration géopolitique américaine de des espaces post-soviétiques en général et du Sud-Caucase en particulier depuis les années 90, alors avec des hauts et des bas, différents outils mobilisés par les différents présidents, etc. Mais politique quand même de pénétration géopolitique a été très forte, notamment à la période Clinton et peut-être encore un peu plus à la période Bush-fils. Donc on est dans ces dynamiques-là avec l'idée évidemment de prendre pied dans ce précaré historiquement russe et encore plus à la frontière de l'Iran. Donc l'intérêt géopolitique est évident. Donc là, en fait, il y a des forces, si vous voulez, il y a des tendances un peu lourdes de la politique étrangère américaine qui trouvent clairement leur compte, notamment au Département d'État. Et voilà, tout ça serait à nuancer, bien sûr, mais Iran et Russie qu'on vient un petit peu chatouiller dans leur précaré, c'est quand même très positif vu de Washington, pour beaucoup en tout cas.
Iran, grand perdant de l'initiative états-unienne, on en parlera tout à l'heure dans le focus avec Clément Terme. Outre les intérêts purement stratégiques de cette région, le Sud-Caucase, alors les hydrocarbures, mais aussi, donc vous le rappeliez, une position vraiment stratégique géographiquement par rapport à sa proximité et de l'Iran et de la Turquie et la Russie est quand même assez proche. Néanmoins, est-ce que sur des questions beaucoup plus financières, les États-Unis auront la seule responsabilité des passages du trafic? J'essaye d'évaluer, Anita Ratchatourova, l'intérêt strictement financier qu'ont les États-Unis à, par exemple, encourager cette route qu'on appelle un peu hâtivement corridor, mais cette route dont vous parliez tout à l'heure, qui sera placée sous gestion étrangère, donc par traité officiel, donc un consortium américain pour une durée de 100 ans. Est-ce qu'on doit parler là d'un modèle de privatisation, un peu sur le modèle de la privatisation des autoroutes, avec une gestion confiée à des sociétés privées sans que ça remette en cause la souveraineté du pays, ou est-ce que c'est autre chose?
Eh bien, c'est justement ça la question. En fait, il n'y a aucune indication à ce stade-ci sur la mise en pratique de ce trip. En fait, on ne sait absolument pas encore. Je ne sais même pas si les parties, les acteurs eux-mêmes qui ont signé ce document le savent. Je pense honnêtement pas. Donc il y a un grand point d'interrogation sur ce que ça va impliquer en pratique. En effet, comme vous le dites, il y a une distinction entre le fait d'avoir une entreprise privée qui serait gérée par des Américains et qui permettrait de maintenir la souveraineté complète sur ce territoire par l'Arménie, donc, et un leasing, comme je disais, donc où le territoire serait prêté pour une 90 ans ou 100 ans, je ne sais plus exactement le 99 ans, voilà, aux États-Unis. Et là, ça supposerait en effet un déploiement de soldats, peut-être de gardes frontières. On a du mal aujourd'hui à imaginer que Trump ou son administration enverrait véritablement, on trouverait ça acceptable, étant donné le discours plutôt isolationniste de Trump, on trouverait acceptable d'envoyer des soldats américains sur cette frontière-là avec l'Iran, compte tenu de toutes les crispations qui existent avec l'Iran et la Russie. Donc vraiment, on ne sait pas, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus actuellement sur la mise en pratique. En tout cas, ce que l'Azerbaïdjan a affirmé à plusieurs reprises et continue d'affirmer, c'est que pour l'Azerbaïdjan, il est inacceptable que les Azéris qui emprunteraient cette route voient des gardes frontières ou toute personne arménienne. Donc voilà, c'est une logique, ce qui est promu ici, c'est une logique de corridor. Et j'aimerais vraiment préciser que la logique de corridor, elle est en contradiction avec la logique de paix, d'accord? Parce que l'Arménie, l'agenda de l'Arménie depuis la défaite de 2020, ça a été de proposer une ouverture de toutes les communications, parce que l'Arménie a intérêt à être désenclavée, à être intégrée dans les processus régionaux et de commerce régionaux.
Donc,
ça, c'est l'intérêt de l'Arménie. L'intérêt de l'Azerbaïdjan est tout l'inverse, de maintenir l'Arménie enclavée, mais elle-même de pouvoir emprunter le territoire arménien, donc pour connecter l'Azerbaïdjan, encore une fois, avec l'Azerbaïdjan. Et en un sens, dévitaliser l'Arménie, parce qu'en la gardant enclavée et en prévenant l'ouverture donc, de la frontière avec la Turquie, que l'Arménie aimerait voir réaliser,
l'Arménie donc reste dans cette position de faiblesse géostratégique et faiblesse économique dans la région.
Une logique de corridor, dites-vous, même si le mot de corridor n'apparaît pas dans le texte. Julien Zarifian, il se trouve que vous avez passé tout le dernier semestre aux États-Unis. De l'Arménie ou de l'Azerbaïdjan, duquel de ces deux rivaux, les États-Unis, sont-ils, d'après vous, aujourd'hui les plus proches, pour que l'on comprenne aussi pourquoi, dans quelle mesure on a l'impression d'un texte qui soit plutôt à l'avantage de l'Azerbaïdjan?
Oui, je dirais de manière un peu froide et un petit peu de manière géopolitique, si j'ose dire, de l'Azerbaïdjan. Et historiquement, depuis la chute de l'URSS, géopolitiquement parlant, les États-Unis sont nettement plus proches de l'Azerbaïdjan, essentiellement en lien avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières de l'Azerbaïdjan et leur transport vers l'Ouest. Hein. C'était quand même une très très grosse affaire, rappelons-nous-en, dans les années 90 et 2000 en particulier, et ça le demeure d'une certaine manière. Donc là, il y a eu une grande, une mise un peu en proximité des États-Unis et de l'Azerbaïdjan pour des raisons d'ordre géoéconomique évidentes, avec un rôle important aussi du Royaume-Uni, hein, par ailleurs, et l'acteur BP, hein, anciennement British Petroleum, était un acteur essentiel, donc très lié à Londres, mais aussi soutenu par les États-Unis. Par ailleurs, il y a un rôle important de la diaspora arménienne des États-Unis qui arrive quand même à se mobiliser ponctuellement, mais assez clairement dans les années 90, 2000, etc., en faveur de l'Arménie, et qui fait que la voix arménienne à Washington n'est pas totalement oubliée.
Près de 500 000 personnes, à peu près, la diaspora arménienne aux États-Unis, qui avait d'ailleurs pesé pour que Joe Biden reconnaisse le génocide arménien pendant son mandat.
Tout à fait. Tout à fait.
Les États-Unis qui souhaitent donc peser dans la région depuis longtemps, comment expliquer que les Russes ne soient pas du tout partie prenante dans les discussions, d'après vous?
Les Russes clairement sont essentiellement concentrés sur le dossier ukrainien, hein, qui mobilise une très très grande partie de leur énergie.
Justement,
les États-Unis.
Certains suggèrent que Vladimir Poutine pourrait avoir laissé faire cet accord-là, parce qu'on ne peut pas imaginer que la Russie n'ait pas été informée par l'Arménie au préalable de ce qu'elle allait paraffer ce texte. Donc on se dit que peut-être que Vladimir Poutine a laissé faire pour se donner un peu plus de force dans les négociations avec Donald Trump sur l'Ukraine, quelques jours avant leur rencontre en Alaska.
Oui, c'est possible, mais je pense aussi que
Eh bien, nous ne saurons pas tout de suite ce que vous en pensez, mais Anita Khachaturova, je crois que là-dessus, vous aviez des choses à dire sur la Russie qui a quand même perdu un lien privilégié qu'elle a eu à la fois avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour des raisons différentes.
Tout à fait. La Russie est en perte d'influence depuis 2020 dans la région, puisque traditionnellement, la Russie était une alliée de l'Arménie. Il y a toujours des bases militaires en Arménie. Et son incapacité à dissuader l'Azerbaïdjan d'attaquer en 2020 et puis en 2023, alors qu'elle avait des troupes de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh même, son incapacité d'une part de prévenir le blocus qui a été imposé sur le Haut-Karabakh à partir de décembre 2022, mais ensuite l'attaque qui a résulté dans l'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh, et en fait dans la perte du Haut-Karabakh lui-même, en fait ça a résulté également dans la perte d'influence pour la Russie dans le Caucase du Sud, de perte d'influence d'une part côté arménien, mais aussi côté azerbaïdjanais, parce que le Haut-Karabakh, ça avait été pendant 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, un outil pour le Kremlin, pour à la fois influencer la politique de l'Arménie et la politique de l'Azerbaïdjan. Et en perdant le Haut-Karabakh, la Russie a également perdu ses leviers auprès de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Ça ne veut pas dire que la Russie est totalement en retrait, qu'elle n'a plus aucun intérêt. La Russie est fortement accaparée par l'invasion de l'Ukraine et que effectivement toutes ses forces vives sont déployées sur ce front-là. La Russie reste un acteur économique majeur dans la région, mais il est vrai que elle a perdu en influence politique et militaire, et c'est une influence que elle va probablement pas récupérer facilement ni rapidement dans la région. Et peut-être qu'elle est perdue une bonne fois pour toutes.
Oui, on arrive à la fin de cette première partie. Merci beaucoup, Anita Ratchatourova. J'ajoute que il y a eu plusieurs indices cette année de la perte d'influence de Moscou dans la région, y compris en Azerbaïdjan, Bakou, qui aujourd'hui à la fois soutient l'Ukraine en lui livrant du gaz et en encourageant la résistance contre l'occupation, comme dit Bakou, ou l'arrestation en juin aussi de membres de FSB sur son territoire. On parlera également de l'Iran, grand perdant de cette initiative des États-Unis, avec Clément Ternes, juste après cette chanteuse iranienne, Marianne Farsad.
دیشب زیر نور ما خوابیدم، خواب تو چشماتو دیدم، توی خواب لبهاتو بوسیدم، با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم، ابرومتو روی ماه و پوشون تا سایه سیاهشو دیدم، دلم تنگ شد برای بوسه هامون، گریه کردم هی چشمامو مالیدم. هی 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 هی.
La nuit dernière, chanson qui date de 2019 de Marianne Farsad, chanteuse iranienne. Vous écoutez Culture Monde, notre série Pax Americana, la paix selon Donald Trump. Aujourd'hui, le pré-accord de paix signé en août entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les États-Unis qui réussissent d'une certaine façon à mettre l'Iran hors jeu.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Car l'Iran voit d'un très mauvais œil l'arrivée des États-Unis dans le Sud-Caucase voisin. L'entourage de l'ayatollah Ali Khamenei accuse les États-Unis de vouloir rompre les liens de l'Iran avec le Caucase et parle de complot. Le président iranien Masoud Pezeshkian s'est d'ailleurs rendu en Arménie peu de temps après le paraphe de l'accord, pour en discuter. Bonjour Clément Ternes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des relations internationales, chargé de cours à l'université Paul-Valéry Montpellier. Votre prochain livre, Téhéran-Washington 1979-2025, paraîtra en septembre aux éditions Hémisphère. D'abord, quels sont les liens historiques, culturels entre l'Iran et ces deux pays du Sud-Caucase, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en quelques mots ?
Oui, en fait, c'est depuis la naissance de l'État moderne iranien au XVIe siècle. C'est une zone d'influence traditionnelle de l'Iran, ça fait partie des territoires de ce qu'on appelle le monde iranien ou le monde turco-iranien. Et dans l'imaginaire iranien, ces territoires du Sud-Caucase sont liés à la mer Caspienne. Et donc on parle souvent de la région Caspienne. Et donc il y a une sensibilité particulière auprès de l'opinion publique iranienne par rapport à l'influence iranienne dans ces territoires. Il faut rappeler aussi que la frontière nord de l'Iran, qui fait plus de 2000 kilomètres, a été fermée pendant la période soviétique. Et donc les liens ont été interrompus, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas traverser la frontière, il fallait se rendre à Moscou depuis Téhéran et ensuite aller au Sud-Caucase. Et en 1991, c'est là que la politique régionale de l'Iran, qui a désormais 15 voisins depuis 1991, et l'ouverture de l'ancien espace soviétique, l'ouverture de la frontière nord de l'Iran, est devenu un terrain d'essai de la nouvelle politique régionale de l'Iran, qu'on appelait à l'époque la politique du bouquet de fleurs, c'est-à-dire de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux dirigeants, à ces nouveaux États voisins de l'Iran. Et donc, dans les années 90, on peut dire que il y a eu un certain succès de la politique régionale de l'Iran, mais qui très vite a été limité par les orientations idéologiques de la politique étrangère de l'Iran, et notamment les relations avec Washington, qui sont venues affecter de manière négative ces relations que l'Iran souhaitait de bon voisinage après 1991.
Voilà, pas de bouquet de fleurs pour les États-Unis qui arrivent dans le Sud-Caucase en vertu de cet accord. Les officiels iraniens, alors certains se sont déjà prononcés en disant que cet accord sous l'égide des États-Unis était une façon pour l'Arménie, par exemple, de s'éloigner de l'Iran au profit des États-Unis et de certains mouvements panturquistes, ont dit ces officiels iraniens. De quoi s'agit-il ? De quels mouvements panturquistes les officiels ont-ils peur de voir l'Arménie contacter, se rapprocher ?
Alors oui, il faut bien comprendre que la relation avec l'Arménie après 1991, du point de vue de la République islamique d'Iran, c'est fait à travers la politique du bouquet de fleurs que je viens de mentionner, mais aussi à travers le soutien à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, à l'hégémonie russe, hein, qui a duré jusqu'à au moins 2020. Et donc, dans cet espace, la République islamique n'a jamais été une puissance contestataire de l'ordre régional voulu par Moscou. Et donc là, c'est une spécificité importante, parce que vous en avez parlé dans l'émission, on assiste à l'affaiblissement russe depuis 2020, et cet affaiblissement russe est un problème pour la République islamique d'Iran. Et on voit plusieurs discours se développer en République islamique depuis 2020. Il faut noter d'abord que le guide suprême a changé de position, puisqu'en 2020, il avait plutôt soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie au nom de l'intégrité territoriale des États et du respect des frontières reconnues par le droit international. Et donc, il y avait cette position qui a été mal comprise en Arménie. Et donc, il a aussi déclenché le mouvement avec le retrait russe qui a été évoqué également vers les États-Unis et l'Europe. Ensuite, il faut comprendre que depuis 2020, cette frontière est déstabilisée. C'était une des frontières qui était stable depuis 1979. L'Iran a connu une guerre sur sa frontière ouest, la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, la guerre d'Afghanistan entre 2001 et 2021 sur sa frontière est. Et depuis 2020, il y a cette question de la frontière nord. Donc dans la perspective iranienne, c'est d'abord une question de sécurité de la frontière. Ensuite, il y a la question d'avoir plusieurs positions en même temps. C'est-à-dire que les gardiens de la Révolution et le guide suprême vont s'inquiéter des projets américains, alors que l'État apparent, le président Pezeshkian, lui, va dire que c'est une opportunité commerciale, il faut maintenir des relations de bon voisinage. Donc la République islamique a toujours plusieurs discours de politique étrangère en même temps pour essayer de contrer ces mouvements panturquistes. C'est surtout le rapprochement entre l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Syrie et Israël. Il faut le comprendre dans le contexte géopolitique du Moyen-Orient.
Israël qui a soutenu l'Azerbaïdjan pendant la guerre d'ailleurs, qui lui a fourni du matériel militaire.
Oui, et puis l'Azerbaïdjan aussi, dans la guerre de juin, n'a pas forcément défendu son voisin iranien. Donc on voit aussi que le contexte géopolitique régional et international affecte ces relations. Et d'un autre côté, vous avez l'Azerbaïdjan qui se rapproche de plus en plus de la Syrie. Et donc ça, c'est une perte. Hein. En décembre 2024, la chute du régime de Bachar al-Assad. Donc ça lie, si vous voulez, la situation au Sud-Caucase et la situation au Levant. Et l'autre aspect, c'est le rapprochement maintenant de l'Arménie. Alors que l'Arménie est un allié fidèle de l'Iran entre 91 et 2020. Mais depuis 2020 et ce rapprochement avec l'Occident, il y a des inquiétudes de l'état profond iranien sur un possible encerclement des États-Unis. Donc il y a deux interprétations, une qui insiste sur les aspects strictement économiques de l'accord et une autre qui voit des aspects militaires et géopolitiques avec des mentions même de l'arrivée de l'OTAN en Arménie. Donc il y a aussi une vision idéologique qui est très présente en République islamique et qui est liée au contexte global.
Pour conclure, Clément Terme, le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu en Arménie le 18 août dernier pour la première fois depuis son élection un an plus tôt. Sa visite était-elle guidée ou précipitée par cet accord ou ce préaccord signé avec l'Azerbaïdjan ? En quoi a consisté son aller-retour ?
Alors, c'est une réaction effectivement à l'accord. La République islamique a demandé des clarifications sur ce qu'ils appellent les lignes rouges de l'Iran, à savoir aucune présence occidentale sur la frontière nord de l'Iran. Parce qu'il y a cette idée qu'en Azerbaïdjan, il y a déjà l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Israël qui servent de poste d'observation de la situation iranienne, voire d'infiltration sécuritaire. Et donc, il y a une inquiétude sur la frontière avec l'Arménie, qui fait une quarantaine de kilomètres, et qui restaient préservés de cette influence sécuritaire occidentale. Donc le président iranien a cherché à développer et à insister sur les liens culturels, historiques, mais sachant qu'il ne détient pas la réalité du pouvoir et que c'est le guide suprême et les gardiens de la révolution qui décident. Mais surtout, il faut bien insister là-dessus, la République islamique est gênée par l'affaiblissement russe en Arménie. Et la défense des intérêts de la République islamique s'est faite depuis 91 dans le cadre russe. Et c'est bien cet effritement du cadre russe qui pose un problème dans les relations bilatérales entre Téhéran et Erevan d'un côté et Téhéran et Bakou de l'autre.
Quant à l'Arménie, terre chrétienne, elle se méfie parfois du caractère théologique de la République islamique, sauf que l'Iran l'utilise dans sa stratégie à l'étranger. Il me semble que l'Iran parle souvent de l'Arménie, la met en avant pour parler d'un dialogue des civilisations.
Oui, tout à fait. Surtout quand ce sont des modérés qui sont au pouvoir à Téhéran, des modérés entre guillemets, c'est pour montrer, si vous voulez, l'ouverture de l'islam sur la chrétienté. Et cela permet, à moindre frais, de montrer une tolérance religieuse affichée sur la scène internationale. Donc c'est vrai que dans les années 90, l'Arménie a joué ce rôle pour le président Rattani à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une minorité aussi arménienne d'Iran, qui est souvent mise en avant comme une minorité loyaliste, qui se distingue par exemple de la minorité turcophone. Et c'est là où la peur du panturquisme joue, si vous voulez. Vous avez d'un côté une intégration réussie, selon le régime iranien, des Arméniens d'Iran, même si l'exil s'accélère depuis les années 2000, comme de tous les Iraniens d'ailleurs. Et d'un autre côté, vous avez cette peur d'un irrédentisme turc et d'un panturquisme qui affecterait la province d'Azerbaïdjan, dans la capitale est Tabriz en Iran. Et donc il y a cette peur du panturquisme qui était compensée par ces liens culturels avec l'Arménie depuis 91.
Merci.
C'est tout cet édifice qui est fragilisé aujourd'hui.
Merci beaucoup Clément Terme. Votre prochain livre, Téhéran-Washington, 1979-2025, paraîtra le 23 septembre aux éditions Hémisphère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Julien Zarifian, nous vous avons retrouvé. On a parlé de la façon dont la Russie et l'Iran ont été tenus à l'écart de cet accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On n'a pas tellement parlé des Européens. Est-ce que ce pré-accord de paix sous l'égide de Donald Trump souligne aussi d'une certaine façon l'échec des Européens à conclure quelque chose, un accord entre Arméniens et Azerbaïdjanais?
Oui, indéniablement, une forme de d'effacement, et oui, ça paraît évident. Et en même temps, c'est quand même un accord une déclaration qui a été saluée à Bruxelles, à Paris, parce que dans le fond, ces avancées vers la paix. Je mets des guillemets quand même à la paix. Il aurait peut-être fallu en définir un petit peu ce qu'on entend par paix. Et voilà, mais en tout cas, ce genre d'avancée convient parfaitement aux acteurs européens, puisque elle est plutôt en faveur de l'Azerbaïdjan globalement, on peut le dire ainsi. Mais l'Azerbaïdjan, qui s'avère être un partenaire important, notamment dans le cadre de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Bon. Contourner la Russie dans ce domaine, donc pour les affaires ça convient parfaitement, et puis voilà. Après, en termes d'éthique et de, entre guillemets, de justice, puisque c'est quand même souvent une notion qu'on associe à la paix, voire qui conditionne la paix, ou en tout cas qui est combinée à la paix. Bon, là, en termes de justice, s'agissant notamment de l'expulsion ou de l'exil forcé des populations arméniennes du Haut-Karabakh, etc., là, ces thématiques sont les grandes absentes.
Merci Julien Zarifian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en civilisation nord-américaine à l'Université de Poitiers, que vous avez notamment dirigé un numéro de la revue Orient Stratégique intitulé « La chute du Haut-Karabakh arménien et le jeu des puissances ». Et je remercie également Anita Ratchatourova, chercheuse doctorante au Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL de l'Université libre de Bruxelles. Et un salut à nos confrères et consoeurs du CDM, le Centre de modulation. On entend bien à entendre nos liaisons téléphoniques parfois un petit peu hasardeuses, combien ils sont indispensables à la radio, et quand ils sont en grève, eh bien, ça n'est pas pareil. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver pour la revue de presse internationale. Ce matin, vous nous emmenez dans la Silicon Valley de l'Inde.
Bangalore, dans le sud de l'Inde, pourrait ressembler à Palo Alto, avec des campus des géants de la tech, comme Google et Microsoft, qui ont aussi leur crèche, leur salle de sport, tout comme en Californie. Mais il y a une différence de taille, souligne le Financial Times. Ces bureaux luxueux n'ont pas accès à l'eau courante. Pas de réseau, pas de raccordement au réseau public, seul le bal des camion-citerne peut tenter de répondre aux besoins des 15 millions d'habitants de Bangalore. 1 million de salariés, d'ailleurs, rien que dans la tech, estime l'Hindustan Times et le Deccan Herald. Pas de métro non plus, jusque dans le quartier d'affaires d'Outer Ring Road, mais des bouchons à n'en plus finir, comme le montrent l'Hindustan Times et News 9, avec des voitures et des bus scolaires jaunes, des écoliers coincés pendant des heures dans des embouteillages monstres le long d'une route où sont installées les plus grandes multinationales du monde. Alors, fini le verdoyant paradis des retraités dont se souvient le Financial Times depuis les années 2000. Bangalore, ou Bengaluru, est devenue une mégapole bétonnée, congestionnée, le symbole de l'essor technologique de l'Inde, note également Bloomberg, mais avec des infrastructures qui ne suivent pas ce rythme de croissance fulgurante, insiste le Financial Times. Et cette expansion rapide s'explique par la rencontre de plusieurs intérêts, ajoute le quotidien britannique dans un autre article, à commencer par les multinationales comme McDonald's ou la chaîne de supermarchés britannique Tesco, qui se tournent vers l'Inde, vers Bangalore notamment, pour répondre à leurs besoins croissants en matière d'intelligence artificielle, et ce, à moindre coût. Ces grands groupes ouvrent à Bangalore des centres de compétences mondiaux pour effectuer un large éventail de tâches de big data, comme la surveillance à distance des températures de réfrigérateur, la vérification de commandes en cours ou encore l'offre de recommandations personnalisées à leurs clients, comme le racontent le Times of India, le Financial Times et l'agence Reuters.
Et ça fait les affaires du gouvernement indien.
Oui, parce que l'industrie manufacturière est à la traîne, rappelle le Financial Times. Et l'Inde a besoin des services de la tech qui pèse près de 300 milliards de dollars pour supporter la croissance économique du pays le plus peuplé au monde. 1000 milliards de dollars sont même espérés d'ici 2030, ajoute le journal économique indien Financial Express, avec la montée en puissance d'autres villes que Bangalore comme Hyderabad ou Mysuru. Mais tout cela accentue, Julie, la pression sur les infrastructures, sur les ressources en eau, alerte un scientifique dans les colonnes du Financial Times. Avec moins d'espace vert à Bangalore et davantage de bureaux, eh bien, on se retrouve face à un réchauffement de cette mégapole encore plus sensible au dérèglement climatique. Bangalore manque d'eau tous les ans, et les plus pauvres en font les frais. C'est ce que s'accordent à dire le Times of India, The Hindu et The Economic Times. Les plus défavorisés ne peuvent pas se payer à boire via des camions-citernes, contrairement aux entreprises de la tech, si bien que les hôpitaux de Bangalore ont vu affluer cette année davantage de patients à cause de la déshydratation, indique le Times of India. Et la situation ne va pas s'arranger de sitôt, prévient le Financial Times, alors que la surtaxe des États-Unis sur les produits indiens importés passe aujourd'hui à 50%, indique la BBC. Eh bien, le Premier ministre indien, Narendra Modi, table lui plus que jamais sur la tech et sur l'intelligence artificielle pour faire face aussi à Donald Trump.
Et pour conclure, Catherine, vous nous parlez d'un élu démocrate qui tente de s'imposer face à Donald Trump.
Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux, X, Instagram. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et son équipe de communication ont décidé de parodier le camp MAGA et le style de Donald Trump, tout en outrance. Digression sinueuse, majuscule et point d'exclamation sur les réseaux sociaux, comme le rappelle le New York Times et Politico. Une satire qui amuse le camp démocrate et MSNBC News, mais qui agace au plus haut point Donald Trump. Donald Trump accuse le gouverneur démocrate de Californie d'être incompétent, de ne pas faire son travail. Mais Gavin Newsom assume sur Fox News aussi bien ses fonctions que son changement de communication depuis que Donald Trump a envoyé des troupes de la garde nationale à Los Angeles en juin. Combattre le feu par le feu, cela passe aussi par un redécoupage de la carte électorale en Californie, favorable aux démocrates, comme ce que le Texas a fait à la faveur cette fois du camp républicain.
Merci beaucoup Catherine Dutu.